En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Marc Fumaroli de l'Académie française expose ici son travail sur la Respublica Literaria, communauté intellectuelle européenne prémoderne du XVIe au XVIIIe siècle. À cette époque, plusieurs érudits partageant la même langue, le latin, ont établi des correspondances et tissé des liens amicaux. La République des lettres et des arts grandira, évoluera et traversera les siècles telle une institution invisible jamais déclarée. Écoutez Marc Fumaroli lors de la séance du 28 juin 2004 devant l'Académie des sciences morales et politiques.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le Recteur, mes chers confrères, tout d'abord un grand merci à Monsieur le Président Michel Albert d'avoir bien voulu m'inviter dans ce cycle de conférences consacré à l'Europe et m'avoir fait ainsi l'honneur, insigne, après Emmanuel Leroy Ladurie, de m'adresser deux fois à vous dans la même année académique. J'espère que je n'abuse pas de votre patience. J'étais très frappé par l'analyse des traits durables de la puissance américaine tels que les proposent messieurs Odom et Dujarric dans leur récent ouvrage « America's Inadvertent Empire ». Les deux auteurs font valoir toute une série d'écarts qui, à leurs yeux, garantissent aux États-Unis, aujourd'hui et sur le très long terme, la suprématie sur leurs alliés les plus proches et les plus développés, entre guillemets, avec lesquels ils entretiennent néanmoins, selon ces deux auteurs, une relation contractuelle et honorable. Ce seraient ces écarts, notamment bien sûr l'écart militaire, qui donneraient à l'alliance avec l'Europe et le Japon un caractère de relative subordination de fait, donnant lieu aux actuels discours sur l'Empire. Les plus intéressants chapitres de ce livre, non, du moins pour moi et pour mon propos d'aujourd'hui, sont ceux qui traitent de l'écart universitaire et de l'écart scientifique et accessoirement de l'écart médiatique entre États-Unis et leurs principaux alliés. En ce qui concerne les universités, la démonstration, en effet, n'épargne ni le Japon, ni l'Angleterre, ni l'Europe. Selon les deux auteurs, chiffres à l'appui, l'université américaine, génératrice des publications de recherche et d'érudition qui font autorité, est devenue le pôle magnétique d'un système mondial de sciences et de savoirs dont elle est l'arbitre et qui draine à elle bon nombre d'étudiants et de chercheurs européens et non les moins doués. En ce qui concerne les sciences dures, deux tiers des prix Nobel sont allés à des savants américains ou ayant poursuivi leurs recherches aux États-Unis. La prééminence américaine dans les sciences est assurée par une profonde intégration logistique de la recherche fondamentale et de l'innovation industrielle et technologique, civile et militaire, privée et fédérale. Je m'arrêterai sur les explications qu'il propose de l'efficience des universités privées, des instituts de recherche, des musées et autres foyers de haute culture américains. Ils font valoir ce qu'ils appellent l'éthique du bien public, propre à la nombreuse richesse privée américaine. Un évergétisme général donne au système de haute culture des États-Unis sa souplesse adaptative, sa vitalité et une réelle indépendance financière, tout en empêchant, ou en tout cas en retenant, l'extension du péril dénoncé par Tocqueville, puis par Thorsten Veblen au début du XXe siècle, celui d'une égoïste aristocratie d'argent exclusivement jouissive et comme consommatrice. Quel rapport, me direz-vous, entre ce vigoureux panorama de l'aujourd'hui américain et les recherches que je poursuis depuis longtemps, comme a bien voulu le rappeler Monsieur le Président, sur l'Europe prémoderne, antérieure donc à la naissance des États-Unis? C'est pourtant cette Europe-là qui, du XVIe au XVIIIe siècle, a inventé ou réinventé tous les principes selon lesquels sont fondées la Constitution américaine, les formes de recherche dont se prévalent maintenant les États-Unis, la science qui rajeunit sans cesse leur machine économique et médiatique, et surtout l'éthique civique qui dicte en notable partie son financement. Comment l'Europe prémoderne, toujours guerroyante, émiettée politiquement et religieusement, de surcroît sous-développée selon nos critères actuels, a-t-elle pu se montrer aussi coopérante, aussi inventive, comme si un génie commun dans l'ordre de l'esprit lui faisait transcender ses faiblesses et divisions dans la plupart des autres hommes. N'y a-t-il pas là un sujet d'étonnement, de réflexion, de recherche et je dirais d'enseignement à proposer en commun à tous les Européens d'aujourd'hui? Tocqueville fait remarquer quelque part dans la seconde démocratie que l'Amérique est cartésienne sans avoir lu Descartes. Dans la péroraison du discours de la méthode, Descartes sort de la solitude du jeu qui a pensé par lui-même pour faire appel à tous les bons esprits, c'est son expression, et les inviter à tirer parti ensemble avec lui et surtout après lui de la méthode de recherche de la vérité dans les sciences qu'il leur propose. Et il écrit « Je jugeais qu'il n'y avait point de meilleur remède contre l'isolement du chercheur, ses moyens matériels limités, la brièveté de la vie, que de communiquer fidèlement au public tout le peu que j'aurais trouvé et de convier les bons esprits à tâcher de passer plus outre, en contribuant chacun selon son inclination et son pouvoir, aux expériences qu'il faudrait faire et communiquant ainsi au public toutes les choses qu'ils apprendraient afin que, les derniers commençant ou les précédents auraient achevé, et ainsi joignant les vies et les travaux de plusieurs, nous allassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun en particulier. » Dans la traduction latine, publiée 7 ans plus tard sous le contrôle de Descartes, le mot « public », que vous avez vu cité 2 fois dans ce texte, est traduit par « respublica literaria ». Le programme cartésien de progrès scientifique et technique cumulatif, par collaboration des esprits se soumettant à une même méthode d'enquête sur les mêmes objets, aurait été en effet inconcevable sans l'existence préalable en Europe d'une république littéraire. C'est à elle que Descartes fait appel en 1637 pour une collaboration internationale plus efficace si elle adopte sa méthode. Il avait songé auparavant à rallier à cette méthode ses anciens maîtres jésuites, dont la discipline commune et le vaste réseau international de leurs collèges, maisons professes et imprimeries auraient pu en effet offrir au programme cartésien un ancrage mondial de tout premier ordre. Faute de réponse favorable, Descartes s'est tourné vers la République littéraire, à laquelle d'ailleurs les plus savants jésuites français et italiens appartenaient, mais dont ils savaient mieux que personne, ayant longuement séjourné en Hollande, correspondant régulièrement à Paris avec le père Mersenne, qu'elle comprenait aussi des savants calvinistes, luthériens et libertins au sens philosophique du terme. Qu'est-ce que cette république littéraire dont la recherche historique ne s'est occupée ici et là que depuis 1 ou 2 décennies? Ni les chancelleries, ni les géographes, ni les cosmographes de l'époque n'en avaient naturellement la moindre connaissance. Avant que sa dénomination française « République des lettres » n'en fasse connaître l'existence à la fin du XVIIe siècle, à un large public européen et par les titres des périodiques publiés en Hollande par Pierre Bayle et Jean Leclerc, on en trouve mention que dans des préfaces et dans les correspondances en latin de savant à savant, d'érudit en érudit et sous la forme usitée dans la traduction latine du discours de la méthode, « Respublica literaria, respublica literarum ».« Respublica », c'est le bien commun de tous les Européens vraiment civilisés, « eruditi ».« Literaria », c'est le bien commun suprême que représente et la mémoire littéraire retrouvée de l'Antiquité classique et l'encyclopédie des disciplines qui ont germé sur ce fond commun retrouvé depuis la poésie jusqu'à la géométrie et l'optique, depuis l'éloquence jusqu'à la philologie et la géographie humaine. Le développement de toutes ces disciplines passe nécessairement par la communication littéraire, c'est-à-dire manuscrite ou imprimée, livre ou lettre missive. L'adjectif littéraire exclut toute division entre ce que C.P. Snow a appelé les deux cultures. Je citerai un exemple, le magistrat toulousain Fermat, dont l'actualité est toujours très grande, comme vous le savez, appartenait à la Respublica Literaria par deux de ses activités en marge de sa profession, les hautes mathématiques et la poésie latine. Où et quand cette expression est-elle apparue ? En Italie, au début du XVe siècle, dans le milieu florentin de la seconde génération des disciples de Pétrarque, dont on fête cette année en Europe le cinquième centenaire. La première occurrence de Respublica Literaria intervient en 1417, 220 ans donc avant le discours de la méthode. On la trouve dans une lettre envoyée de Florence par le jeune vénitien Francesco Barbaro à un secrétaire de curie en mission au concile de Constance, Poggio Bracciolini, le félicitant des trouvailles qu'il a faites en marge de ses activités professionnelles en furetant dans les bibliothèques de couvents helvètes. Il a retrouvé les manuscrits de textes intégraux d'œuvres antiques que l'on croyait perdus ou à jamais mutilés, notamment celui de l'Institutio Oratoria de Quintilien, dont chacun sait le rôle séminal qu'il va jouer au cours des deux siècles suivants dans l'histoire de l'enseignement secondaire de Guarino Guarini à Erasme, d'Ignace de Loyola à Rousseau. Dans la lettre de Francesco Barbaro, on trouve déjà tous les traits essentiels de l'éthique civique qui va cimenter la République des lettres italiennes, puis, dès le début du XVIe siècle, européenne, et la rendre capable de rapides et incontestables progrès. L'hommage rendu à Poggio l'est au nom d'une communauté dont ce philologue amateur est l'émanation et la fierté. Il donne l'exemple du sens élevé des devoirs que chacun des membres de cette communauté se sent tenu de remplir, par-delà sa carrière professionnelle, par-delà ses intérêts personnels, envers un bien commun universel, le mot est dans la lettre, qui lui-même dépasse celui de la cité ou de la nation auquel chacun d'entre eux appartient, ce qui, pour ces Italiens, est tout à fait superbe. Ce bien commun, c'est la redécouverte, pièce à pièce, du fonds gréco-romain dispersé, endommagé ou enfoui par les invasions barbares et l'ignorance des moines, le lien social de cette communauté d'intérêt hautement public, mais de statut privé, c'est l'amitié des intéressés entre pairs, tels que l'ont célébré Cicéron et Sénèque. Autre présupposé moral, outre le sens du devoir civique, d'une coopération généreuse et efficace en vue d'une telle fin. Nous sommes alors dans la première phase de la Renovatio Literarum, de ce que nous appelons, à juste titre d'ailleurs, la Renaissance, puisque c'est un mot que les contemporains employaient, celle qui va culminer en 1420-1450 par le retour en Italie du fonds grec rapporté de Byzance en péril. Chasseurs de manuscrits, antiquaires, philologues, reconstituent comme un puzzle l'ensemble des textes dépositaires de l'encyclopédie gréco-latine. Ils établissent et publient des éditions manuscrites puis imprimées. Par les fouilles et les relevés typographiques, ils extraient des grottes et des ruines les éléments d'une vue synthétique de la statuaire, de la peinture, de l'architecture civile et militaire, de l'urbanisme, des communications, des monnaies, bref, de la civilisation gréco-latine dans son ensemble. La deuxième phase commence à la fin du XVe siècle, au moment où d'autres Européens viennent se joindre aux Italiens pour se mettre à leur école et collaborer avec eux. Les éditeurs de manuscrits antiques, qu'ils soient scientifiques ou littéraires, dans notre sens à nous, et les étudiants d'œuvres d'art antiques, ne se bornent plus à mettre en lumière et à restaurer les témoignages corrects venus de l'Antiquité ou restés intacts ou en tout cas partiels depuis l'Antiquité. Ils les prennent, et c'est cela qui est très important, c'est une nouvelle phase, pour point de départ de recherches nouvelles donnant lieu à des disciplines distinctes, mais souvent pratiquées par ce que on pourrait appeler, mais c'est un mot un peu trop prématuré, citoyens de la République littéraire, en correspondance, en coopération, avec des pairs tout aussi encyclopédiques, pluridisciplinaires, je dirais même pantagruéliques, de leur plein gré et à titre privé. J'ai déjà évoqué les traits éthiques de cette collaboration, que la diffusion de l'imprimé et la circulation des lettres missives permet d'opérer à distance, cette éthique civique, embrassée en quelque sorte volontairement par des philologues, des antiquaires, des poètes, des savants en plusieurs savoirs, autorise le contournement d'institutions routinières ou hostiles ou inquisitoriales. La plupart des membres cooptés de la Respublica Literaria consacrent en effet, ça c'est un point très important, c'est même le point capital, consacrent en effet à leurs travaux le temps de leur otium, otium studiosum, en marge de leurs activités professionnelles de magistrats, de médecins, de secrétaires, ou bien ils bénéficient d'un mécénat privé, qu'il s'agisse d'un prince ou d'un cardinal, ou bien ils confondent, s'ils sont religieux, et avec l'agrément naturellement de leurs supérieurs, l'otium studiosum, proprement dit, et l'otium religiosum, l'otium des moines, ou bien encore, marchands ou fils de marchands, libraires et clients de libraires, ils se subventionnent eux-mêmes. Le statut essentiellement privé, volontaire et autofinancé de la Respublica Literaria a conféré à ses travaux, à sa coopération interne, à ses débats, une vitalité, un pouvoir d'attraction, une capacité d'adaptation aux circonstances, une indépendance et une résistance aux censures que ne pouvaient offrir ni les anciennes universités, ni même, je dirais, les académies royales qui commencent à surgir au cours du XVIe siècle et qui vont fleurir au XVIIe et XVIIIe siècle, qui, naturellement, n'ont pas la même liberté de mouvement que cette espèce de réseau invisible qui travaille, en quelque sorte, dans l'arrière-boutique dessinée par Montaigne. L'éthique de ses membres, pénétrée du De officiis et du De amicitia de Cicéron, du De otio aussi de Sénèque, leur a souvent permis non seulement de passer par-delà les hostilités entre nations et caractères nationaux, et Dieu sait si elles sont très fortes à cette époque, dans cette Europe prémoderne, mais de surmonter parfois, après le schisme du XVIe siècle, sur tous les terrains au moins extra-théologiques ou scripturaires, les différences et les persécutions confessionnelles violentes après le schisme. L'expression « Respublica Literaria » a d'ailleurs été frappée, certainement, au coin de l'expression médiévale « Respublica Christiana ». Et à certains égards, elle en a pris le relais. Sa gestation, au fond, cette gestation est contemporaine de la biographie de Pétrarque. C'est Pétrarque qui invente cette formule, même s'il ne l'a pas formulée d'une manière explicite, par sa vie, par ses amitiés, par son style de vie, par ses œuvres. Donc, sa gestation de cette Respublica Christiana, elle avait coïncidé, dans le temps, avec le grand schisme du XIVe siècle, et comme pour essayer de guérir, en quelque sorte, la Respublica Christiana de cette terrible blessure. Son aire géographique, d'abord, évidemment, étendue aux innombrables principautés italienne, et notamment, naturellement, aux États pontificaux, puis avec pour centre nerveux Florence, Bologne, Rome, Naples, Venise et Padoue, s'élargit dès le début du XVIe siècle à la France, à l'Angleterre, à la Suisse, aux Pays-Bas, à l'Espagne, au Saint-Empire romain germanique, à la Scandinavie, à la Bohême, à la Hongrie, à la Pologne. C'est à peu près l'Europe telle que nous la connaissons actuellement, pour peu, évidemment, qu'elle cesse de s'élargir. C'est à cette aire géographique que songeait le grand éditeur de classiques de la science, de la philosophie, de la littérature grecque, Aldemanus, en écrivant ses magnifiques préfaces d'éditoriaux qu'il publie à Venise entre 1499 et 1717, en tête, par exemple, de son Platon, dédié à Léon X, ou de son Aristote, dont il sait qu'ils vont figurer dans toutes les bibliothèques de lettrés européens, en disséminant en Italie, et surtout hors d'Italie, en envoyant à l'abri aux quatre coins de l'Europe le fruit du travail de plusieurs générations de philologues italiens, collationnés d'ailleurs dans son atelier de Venise, et parachevé par une équipe internationale réunie autour de lui, il s'assure, ou tout au moins il affirme, formellement que désormais, les pires catastrophes ne pourront plus recommencer ce qui s'était passé à Rome au XVIe siècle ou à Byzance au siècle précédent du fait du petit nombre de bibliothèques qui avaient permis la destruction ou en tout cas la dispersion irréparable pour longtemps de tout le travail accumulé par plusieurs siècles de civilisation gréco-latine. Je vous remercie.
C'était Marc Fumaroli, membre de l'Académie française, le 28 juin 2004, devant l'Académie des sciences morales et politiques. Il parlait de la Respublica Literaria, communauté intellectuelle de l'Europe prémoderne. Vous pouvez réécouter cette séance depuis tous les endroits d'Europe ou du monde, gratuitement, sur notre site canalacademie.com. Bonne journée.